qui revient au possesseur de la terre, des moyens de production, et ce qui revient à celui qui ne possède pas et qui a besoin d'entretenir sa force de travail, c'est-à-dire de subsister, de faire des enfants qui assureront le maintien de la force de travail future. Bref, quand Marx a analysé le travail et le capital au XIXe siècle, eh bien, il a montré quelque chose qui éclaire d'ailleurs les difficultés de compréhension de ce qu'est le capital, a fortiori évidemment si on ne vous donne pas les clés et si de fait on vous interdit d'aller vous renseigner sur ce que c'est que le capital et le travail. C'est-à-dire que Marx a montré que le contrat de travail est quelque chose qui, en très large partie, repose sur l'abstraction dans le contrat de travail capitaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucun capitaliste qui a embauché un salarié productif. On laissera pour l'instant le travail non productif, mais qui a embauché donc un travailleur productif en lui disant, bon, bah, écoutez, c'est très bien, vous allez travailler 4 heures pour vous et puis 4 heures pour moi. Ça ne se voit pas dans le contrat de travail capitaliste. Et évidemment, c'est ce sur quoi ont travaillé tous les économistes, bourgeois ou pas bourgeois, qui ont analysé le processus, le rapport, le processus de fonctionnement du capital et le rapport entre le capital et le travail. Eh bien, si vous lisez « Travail salarié et capital », si vous lisez « Salaire, prix et profit », vous comprendrez que quand le salaire baisse, le profit ou la plus-value qui est à l'origine du profit, c'est-à-dire ce que Marx appelle le travail gratuit, le travail que le travailleur consent non pas pour lui-même mais pour le capitaliste, eh bien que si le salaire progresse, le travail gratuit baisse, c'est-à-dire le profit baisse puisque le profit est généré par le travail gratuit, et inversement. C'est à l'origine, évidemment, de ce que tous les économistes bourgeois ou non bourgeois ont compris comme une opposition irréductible entre le travail et le capital, entre le salaire et le profit. Je disais toujours à mes étudiants, l'économie vous embête, mais en laissant de côté la compréhension de l'économie, vous vous interdisez formellement de comprendre ce qui vous arrive, et en particulier vous vous interdisez de comprendre les crises et évidemment ce qui est le cortège des crises. Bon.
Oui, c'est bien pour ça que à l'éducation nationale on a supprimé
L'histoire est une matière, de toute façon l'histoire est une matière insupportable parce que même quand on la contrôle, et on l'a contrôlé de mieux en mieux ces 30 dernières années, dans des conditions d'ailleurs que j'ai exposées dans un petit opuscule qui a été publié au temps des cerises en 2004, qui s'appelle « L'histoire contemporaine sous influence », dans laquelle j'ai montré que les classes dirigeantes représentaient soit au niveau de l'État, soit de manière directe, et c'est d'ailleurs un aspect très neuf de ce contrôle, que ces classes dirigeantes ont été en mesure d'exercer sur l'histoire contemporaine, moi je parle de ce que je connais, et en particulier dans le champ large des recherches qui ont été les miennes. C'est pour ça que j'ai analysé évidemment dans le champ de mes recherches, pas ailleurs, mais c'est vrai que j'ai travaillé quand même sur beaucoup de choses, donc je suis en mesure de voir un peu comment la pression directe des classes dirigeantes a joué sur les champs sur lesquels je travaillais. Donc ces classes dirigeantes ont été en mesure, par divers moyens, d'exercer une séduction sur ceux qui fabriquent l'histoire. Ceux qui fabriquent l'histoire, je dirais qu'au sommet, et avec répercussion jusqu'à la base, c'est le milieu dans lequel j'ai passé 26 ans. C'est-à-dire, c'est l'université, puisque c'est l'université qui est à l'origine de la fabrication, pas de la fabrication, ça c'est les éditeurs, mais du contenu des ouvrages. C'est-à-dire que, finalement, de du rapport des forces à l'université dépend ce que vous trouvez dans les manuels de vos enfants, hein, du primaire jusqu'à l'université incluse. Et donc, on a quelque chose de nouveau ces 30 dernières années, qui est que non seulement l'État a lui-même exercé une influence, celle qu'il a toujours exercée, bien sûr, hein, sur la diffusion de la culture, sur l'école, sur l'université, mais que il y a eu une pression directe du grand patronat, puisque le grand patronat, comprenant, parce qu'il comprend tout, je vais essayer de montrer pourquoi, comprenant très bien à quel point la diffusion d'histoire était importante, s'est trouvé en mesure de créer toute une série de d'institutions, de comités d'histoire, etc., pour lesquels il a fait appel à un certain nombre d'universitaires, universitaires d'ailleurs quelquefois dont le passé était un passé marxisant, pas toujours, hein, mais parfois. Et on s'est retrouvé comme ça avec des comités de la RATP, de la Banque de France, de la CEITA, qui ne s'appelle plus CEITA puisque on le sait maintenant le tabac est entre des mains étrangères, etc. Et on a généré depuis 30 ans en histoire économique et sociale une sorte de noyau influent, ma foi, des gens comme Jacques Marseille en était, qu'il ait été inclus dans ces comités, qu'il ait lui-même créé des comités, qu'il ait été à la direction de Manuel, et ces gens ont, comme Yves Montand dans sa sphère, mais évidemment avec, je dirais, cette apparence de l'objectivité académique, ces gens ont eux-mêmes contribué à ce que l'histoire économique et sociale devint aseptisée, peu dangereuse pour le patronat, et ont, par exemple, remplacé l'histoire des luttes de classe, que Marx n'a pas inventée, mais qu'il a constatée comme une série de ses prédécesseurs, remplacé l'histoire des classes sociales, c'est-à-dire l'histoire de la lutte des classes, par une histoire des entreprises, du dynamisme des entreprises. Bon. C'est-à-dire qu'on a là un des aspects du rôle écrasant de ceux d'en haut sur la fabrication même de la connaissance. Et je veux le dire parce que quand j'ai préparé mes deux ouvrages qui sont échelonnés en publication entre 2006, 2008 et 2010, parce qu'il y a eu une réédition et une vraie réédition du premier, quand j'ai préparé globalement du point de vue des archives en 6 ans, d'une part le choix de la défaite, c'est-à-dire les élites françaises dans les années 1930, d'autre part Dominique à Vichy, sous-titré l'assassinat de la Troisième République 1938-1940, dans ces 6 années d'archives, j'ai donc eu l'occasion de voir comment le patronat contrôlait tout sur le plan politique, sur le plan des médias, des moyens d'information, etc., de manière même surprenante, puisque on dit souvent à l'école des sciences politiques que le politique dispose de beaucoup d'autonomie. Et ça, c'est une des croyances d'ailleurs qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Voilà, parmi, je dirais, les supercheries, l'autonomie du politique. Mais non, il n'y a pas d'autonomie du politique. C'est-à-dire que le patronat est en mesure de contrôler l'État. Alors, je dirais qu'on a eu de la chance ce dernier été. Pour une sombre histoire de rivalité familiale, il nous est arrivé des révélations sur un secteur sur lequel nous n'avons jamais de révélation. De temps en temps, des historiens curieux et isolés s'en vont regarder les archives policières, patronales, étrangères, etc., parce que on trouve des choses sur la situation économique et sociale dans des archives qu'on ne pourrait même pas soupçonner d'aborder ces questions. Eh bien, de temps en temps, vous avez un historien ou une historienne qui s'en va voir comment ça fonctionne et qui s'aperçoit en effet que des gouvernements entiers sont contrôlés strictement par le patronat, c'est-à-dire que leurs ressortissants ne tiennent leur promotion ou leur maintien dans leur situation fort avantageuse que des rapports directs qu'ils tiennent avec le patron, qu'ils ont avec le patronat, sachant que c'est un lien indissoluble. C'est-à-dire que si ce lien est rompu, leur carrière, évidemment, s'arrête net, et qu'ils sont donc des délégués directs du grand patronat. Ce qui s'est passé, qui nous a été révélé cette année, c'est quelque chose qu'on constate de manière courante si on lit le choix de la défaite. Et qui, évidemment, de manière, je dirais, fort discrète, lié par mes collègues, je pense à une remarque qu'un professeur d'une université très prestigieuse vient de faire à une de mes anciennes étudiantes, mon ancienne étudiante qui avait fait avec moi un mémoire de M sur un milieu qui est extrêmement lié à la synarchie, qui est la très haute administration de la SNCF, qui est une niche synarchique, hein. En particulier l'un d'entre eux, Berthelot, qui a été un ministre de Vichy, et ministre de Vichy d'une importance beaucoup plus personne ne le connaît, et ce Jean Berthelot, c'est un personnage d'une importance considérable dans l'avant-guerre, sous l'occupation, je l'ai moins suivi après-guerre, mais lui et ses pairs, en tout cas ses pairs, ont joué un rôle aussi important dans l'après-guerre. Donc mon étudiante vient avec son M1, je suis à la retraite, elle ne peut pas faire son M2, et elle va voir un historien de l'économie, auquel elle doit avouer, la pauvre malheureuse, qu'elle a fait son M1 avec moi, ce qui la rend presque impossible à caser sur le marché des M2, si j'ose dire. J'ai l'air d'exagérer, mais je n'exagère pas. J'imagine. Et elle se fait dire par le collègue, donc elle a travaillé sur Berthelot, qui a été un très haut fonctionnaire de la SNCF avant de devenir le directeur général adjoint sous l'occupation de la SNCF et ministre des Communications, je vous prie, ce qui n'est pas rien. Et elle se fait dire par le collègue, bah, écoutez, de toute façon, il y a qu'une personne qui croit à la synarchie en France, c'est Annie Lacroix-Risse. Regardez tel ouvrage de Dard, voilà. Je prie d'ailleurs les auditeurs de lire l'ouvrage d'Olivier Dard, ou en tout cas de le feuilleter, d'aller le demander en bibliothèque s'ils veulent pas l'acheter, sur le mythe de la synarchie. Il est du plus haut comique puisqu'il n'est alimenté par aucune source et qu'il explique que la synarchie est une drôle de plaisanterie. Non, la synarchie n'est pas une plaisanterie. La synarchie est un groupe d'une douzaine au début, d'une trentaine, d'une cinquantaine, de quelques dizaines ensuite. Je parle des plus importants, hein, parce que d'après les renseignements généraux de la Sûreté nationale, en 1945, cette synarchie qui n'existait pas groupait 1500 personnes. Pour un groupe qui n'existe pas, 1500 personnes, c'est un groupe solide. Mais on va dire que il y a dans cette synarchie quelque chose qui ne représente même pas ce qu'on appelle les 200 familles. Je rappelle que les 200 familles, ce sont les 200 familles des plus gros actionnaires de la Banque de France, qui ont été dans la campagne électorale du Front Populaire présentées comme le symbole de la richesse en France. C'est-à-dire qu'en gros, on a entendu beaucoup parler des 200 familles à partir de 1935-1936, dans le feu de la campagne pour le Front Unique, également appelé Front Populaire. 200 plus gros actionnaires, bien entendu, dans les 200 plus gros actionnaires, il y a les représentants de ma synarchie, mais finalement, à la fin des années 1930, on peut considérer qu'une trentaine de grands capitalistes représentaient le pouvoir en France, l'ensemble du pouvoir, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, à peu près tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette synarchie ? Il y avait ce qui est représenté par la Banque de France, c'est-à-dire la haute banque privée. La question de la banque publique ne se posait pas, il n'y en avait pas. Il y avait les milieux, d'autres milieux, je dirais très très atlantiques à l'époque, c'est-à-dire représentés dans le transport international. Et c'est très intéressant d'ailleurs, quand on étudie le cas français comme n'importe quel cas, que de se pencher sur les liens internationaux du capitalisme dès l'entre-deux-guerres, et même avant 1914, on va dire depuis la phase impérialiste du capitalisme, c'est-à-dire depuis les années 1870-1880, il y avait, et je parle des décideurs, je ne parle pas des idéologues pour l'instant, je parle des vrais décideurs. Il y avait des milieux représentés, les milieux de l'industrie lourde, le cœur de l'industrie lourde, c'est-à-dire ce qu'on appelait le comité des houillères, des créations, je le rappelle, du Second Empire, des années 1860, c'est-à-dire de ce moment où le capitalisme français va vogue vers sa phase impérialiste développe un certain nombre, crée un certain nombre d'institutions qu'il aide évidemment à contrôler l'ensemble de son marché intérieur et éventuellement évidemment de s'aventurer sur les marchés extérieurs. Donc le comité des houillères qui était représenté escalité par Henri de Peyrimov et le comité des forges qui fait doucement sourire, enfin il a un petit peu moins fait sourire quand on a entendu ces dernières années autres révélations, quelques éléments vite étouffés sur les activités de l'Union des industries métallurgiques et minières, devenue avec le même sigle aujourd'hui l'Union des industries et métiers de la métallurgie, mais c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire le comité des forges représenté dans l'entre-deux-guerres et au-delà d'ailleurs par ses successeurs, par François de Vindel, c'est-à-dire un des plus gros représentants de la sidérurgie, mais aussi des gens comme les Schneider, comme les Laurent, etc. C'est-à-dire le cœur du capital en France. Or, ces gens, et c'est ce que la population ne sait pas, sont en mesure de contrôler, de manière directe ou indirecte, pratiquement tous ceux qui ont une influence sur la population. Presque tous ceux. Je dis presque. Et dans des conditions qui fâchent. Qui fâchent quand on discute évidemment avec les gens, parce que dès que vous abordez ces questions, dès que vous abordez ces questions du contrôle du grand capital, vous entrez dans le champ politique. Et dans le champ politique dont on explique aux populations qu'il est autonome. Dans un champ politique qui a une droite, une gauche, et qui demande évidemment pour analyse une très grande acuité. C'est-à-dire que ce que je dis aujourd'hui et parfois qui fâche, d'abord, ne doit pas conduire du tout à penser tous les mêmes, tous pourris, mais doit conduire à comprendre que dans une société de classe, la classe dirigeante a une situation de contrôle qui finalement est totale, ou presque total, sauf quand, et ça se produit à l'occasion des conjonctures de crise, sauf quand la population se voit tellement atteinte dans son salaire que finalement elle envoie balader tout ça et qu'on peut se trouver dans des conditions soit de remise en cause des rapports salaire-profit partiels, c'est le cas du Front Populaire, très partiel, mais ça a quand même eu une importance considérable, soit totale, et ça s'appelle une révolution. Bon, ça, on le sait, en France et dans beaucoup de pays, ça n'est pas arrivé depuis longtemps. Mais ça arrive de temps en temps. Alors, la Synarchie, c'est un groupe qui s'est constitué ou reconstitué. Je laisse tomber certains aspects, hein. De toute façon, c'est expliqué très longuement dans le choix de la défaite, puisqu'il y a pratiquement un chapitre entier sur la définition de la Synarchie et les problèmes méthodologiques que ça pose. C'est un groupe de très grands capitalistes dans les secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire secteur bancaire, avec deux banques en particulier, la banque Worms, qui était une banque très liée à la Manche et à l'Atlantique, c'est-à-dire très représentée dans le transport maritime, et qui était d'ailleurs un symbole, qui a été un symbole des relations avec l'Angleterre, des relations impérialistes avec l'Angleterre et des mutations d'ailleurs de cette alliance dans les années 1930 plus la banque Le Hideux, qui est une banque de moindre importance, plus la banque d'Indochine, ou très vite la banque d'Indochine, puisqu'il y a une indétermination sur les 12 premiers. On connaît les 12 premiers grands synarques, les 11 premiers, on ne connaît pas les 12, fournit la liste. Bon, mais comme la banque d'Indochine est devenue un élément extrêmement important très vite, il est possible que le 12e ait été le président de la banque d'Indochine. C'est-à-dire, par définition, à la Banque d'Indochine, c'est une des banques de l'impérialisme français. Je signale ses pouvoirs considérables, notamment pouvoir de battre monnaie, etc. Enfin bref, d'abord la banque, et la banque internationale, c'est-à-dire dans la phase déjà impérialiste du capitalisme français, symbolisant les liens extérieurs et l'empire colonial. Je le dis et j'y insiste un petit peu parce que, comme un auditeur, puisque tu m'as montré la liste des questions, pose la question de la France-Afrique. Moi, je n'ai pas, par travail personnel de chercheuse, cherché beaucoup sur l'Afrique subsaharienne. En revanche, j'ai fait il y a une vingtaine d'années un ouvrage sur les protectorats d'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, pas l'Algérie, parce que les fonds n'étaient pas ouverts, mais les protectorats leur rôle dans les rapports entre Paris et Washington. Donc, bien entendu, la France-Afrique, y compris dans la synarchie, l'aspect du contrôle colonial est un aspect essentiel. Mais il y a d'autres chercheurs que moi qui ont travaillé sur l'Afrique subsaharienne et abouti au concept de France-Afrique. Un groupe dont personne n'a jamais entendu parler, qui est un groupe apparemment extrêmement influent, dont je ne sais pas comment il a évolué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il était encore très puissant et il est fort probable qu'il se soit intégré, comme les banques dont je parle d'ailleurs, dans des fusions successives, hein, puisque mes banques des années 20 et 30 ou 40 et 50, on les retrouve aujourd'hui, hein, après la banque d'Indochine, ça s'est fondu avec Suez, etc. Toutes mes banques, on les retrouve aujourd'hui, avec encore plus de pouvoir qu'alors. Donc, la haute banque, et la haute banque à assise internationale considérable, le comité des houillères, en la personne de Peyrimov, le comité des forges, en la personne de quelques représentants très liés à la sidérurgie. Il n'y a pas, je ne sais pas si c'est le 11e, il n'y a pas Wendel lui-même, mais dans toutes les activités de la synarchie, on retrouve des éléments majeurs du comité des forges, et en particulier de sa branche particulièrement agissante, dont on peut dire que c'est une des maîtresses des rapports de classe en France depuis sa naissance 1901, c'est-à-dire l'UIMM. Hein, le comité des forges, c'est le Second Empire. Comité des forges et comité des houillères, c'est dans les années 1860, et l'UIMM, c'est 1901. Donc, on a là, la haute banque, on a une douzaine de personnages de la haute banque à assise internationale, de l'industrie lourde, qui se regroupent explicitement. Pourquoi ? En 1922, la date n'est pas sans importance. 1922, c'est une période où, dans les grands capitalistes d'Europe, après la Première Guerre mondiale et après le choc inouï, considérable, inimaginable qu'a constitué la révolution bolchevique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas évidemment consulter les archives de l'entre-deux-guerres sans être frappé par l'obsession qu'a représenté la révolution de 1917. Évidemment, pour un motif très simple, c'est que cette révolution abolissait la propriété privée des grands moyens de production et d'échange. Alors ça posait la même question que la Révolution française, qui abolissait ou qui tendait à abolir les droits, sinon encore la propriété, de la féodalité. Mais cette révolution bolchevique avait un autre défaut rédhibitoire, c'est que je rappelle que la Russie tsariste avait fondé toute sa croissance de type moderne après l'abolition de la féodalité en 1861 sur le rapport avec le capitalisme étranger, avec l'impérialisme, et que toute son économie moderne était détenue par le capital étranger. Tout. Le charbon, les mines d'or, le pétrole, tout. C'est-à-dire que la révolution bolchevique, elle a représenté non seulement ce que la révolution française représentait pour les seigneurs d'Europe, le risque de reproduction de cet abominable exemple de suppression des moyens de la propriété privée, des moyens de production, mais elle leur a représenté un coup à la caisse gigantesque, parce qu'ils contrôlaient l'ensemble des activités productives modernes de la Russie. Donc ça leur a fait perdre une propriété gigantesque. Mmh. Et ils n'ont eu de cesse, naturellement, de la rétablir, ce qui pourrait fournir l'objet de plusieurs émissions. Et donc, ces milieux-là se sont regroupés en 1922 sur une base qui était celle, au fond, posée au grand capital par les lendemains de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale s'est éclose, comme n'importe quelle guerre de type impérialiste, par un problème difficile de passage de l'économie de guerre à l'économie de paix. Quand le contribuable paie le développement économique comme il l'a fait dans la Première Guerre mondiale, vous imaginez bien que convertir la sidérurgie, le charbon et autre chose en activité de paix, c'est délicat. Donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu une crise courte, celle-là, mais une crise épouvantable de reconversion qui est partie des États-Unis, ce qui pourrait nous amener évidemment à réfléchir sur le mécanisme des crises, mais on pourra pas tout faire ce matin. Et donc, cette crise a été intense partout, particulièrement intense dans des pays comme l'Italie, où l'ensemble de l'énorme développement économique s'est fait sur la base de l'intervention étatique et donc du paiement du contribuable. Et comme on le sait, la crise en Italie s'est close, si j'ose dire, elle s'est pas close d'ailleurs, mais elle a abouti à ce que le grand capital se donna des structures particulièrement congrues, c'est-à-dire fit venir au pouvoir le fascisme. Ça a beaucoup plu, cette expérience fasciste, et 1922 n'est pas une date de hasard, c'est-à-dire que ce groupe se constitue dans la mesure où il estime que les institutions françaises ne sont pas congrues. Il serait bien de les réformer. Et ce groupe, à partir de 1922, qui se renforce évidemment de nouveaux adhérents, dont certains sont des adhérents décisifs. Hein. On va dire qu'il y en avait une trentaine ou une quarantaine à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, qui regroupait toute une série de secteurs décisifs. Bon, dans les premiers, il y avait l'industrie lourde, et ben après, il y a eu par exemple l'électricité, Ernest Mercier qui contrôlait toute l'électricité. D'ailleurs, on est, vous le savez, en passe de parvenir à une situation comparable à l'avant-guerre avec l'octroi par le pouvoir d'État de ces secteurs énergétiques qui avaient été partiellement placés sous le contrôle de la puissance publique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, des gens comme Ernest Mercier, une liste dont les plus importants figurent dans le choix de la défaite, puisque j'ai choisi la liste de 1941 fourni par le directeur de la Sûreté Générale qu'on veut faire passer pour un quasi-fou. Pensez que les directeurs de la Sûreté Nationale envoient des informations bidons quand le sommet de l'État les somme de fournir une enquête sur la synarchie. Bien entendu, c'est la base sur laquelle une série de mes contradicteurs implicites, je dis contradicteurs implicites parce qu'ils n'ont jamais accepté le débat, à l'université, décrète que le rapport Chavin, le rapport d'Henri Chavin de juin 1941, fournissant quelques dizaines de noms de la synarchie est un rapport purement bidon fait par des conspirationnistes. Enfin, vous voyez, on retrouve la thèse de l'histoire complot, parce que, comme chacun sait, les complots, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, Allende est tombé tout seul et a été tué dans le palais de la Moneda en raison d'une vengeance divine, sans doute, contre les atteintes possibles à la grande propriété des moyens de production et d'échange. Donc, cette synarchie, définie par Henri Chavin comme, ne citant que les dizaines les plus importantes, est au fond séparant la synarchie en deux groupes, hein. Ce que j'appelle le groupe dirigeant, le véritable groupe dirigeant, c'est-à-dire le groupe des détenteurs du capital. Et puis, le groupe de ses serviteurs les plus utiles, les relativement ou absolument les plus puissants. Je me fais comprendre. On ne met pas sur le même plan Paul Baudouin, président de la Banque d'Indochine, et René Belin, dirigeant syndical, acheté par la synarchie. Et quand je dis acheté par la synarchie, je dois le dire d'ailleurs aux auditeurs, je suis quelqu'un qui manie des choses horribles, mais je me contente de produire les archives. Et il faut bien savoir que si en lisant, vous avez l'impression quelquefois de lire un brûlot, ce n'est pas parce que je suis pétroleuse, c'est simplement parce que les archives sont terribles. Et qu'il n'est pas besoin de s'énerver, il suffit de produire les archives qui montrent comment, à partir de 1934-1935, le grand capital a trouvé utile de se ménager pour contrôler mieux les masses, et bien quelques dirigeants compréhensifs, ce qui est quand même un minimum de maîtrise de la lutte des classes. Il n'y a que ceux qui mènent mal la lutte des classes ou qui ne la mènent pas, qui l'ignorent. Mais le patronat, lui, ne l'ignore pas. Donc ces gens, qui représentaient quelques 20, 30, 30 grandes entreprises au milieu des années 1930, et dont on peut suivre l'expansion dans mon livre « Le choix de la défaite », ou alors dans les tableaux de Dominique Avichy, puisque j'ai résumé tout ça dans Dominique Avichy, ces gens s'étaient regroupés parce que ils considéraient que la République, toute bonne fille qu'elle fût, ne leur donnait pas satisfaction assez immédiate dans une série de revendications. Pourquoi ? Parce que la République, pourtant extrêmement conservatrice, comme le constatent beaucoup d'historiens étrangers, il n'y a que chez nous qu'on ne le constate pas, je pense à des historiens très raisonnables, canadiens, qui montrent la continuité de la férocité de la bourgeoisie en France en 1815, 1830, 1848, 1851, etc. Mais chez nous, on ne le sait pas. Bon, donc, cette grande bourgeoisie trouvait que la République laissait trop de champ à sa population. En particulier, la population disposait de moyens de défense qui étaient, avec des degrés divers d'efficacité, d'abord un Parlement qu'on élisait. Certes qu'on élisait de manière très injuste, puisqu'il n'y avait plus de suffrage censitaire depuis à des moments de suffrage censitaire direct, soit depuis la révolution de 1848, à des phases diverses de la période suivante. Je rappelle que le suffrage censitaire, ça consiste à subordonner le droit de vote au paiement d'un impôt, en général évidemment, lourd, dans une population tellement pauvre que on ne lui fait payer que l'impôt indirect. Apparemment le plus indolore est celui qui fournit à l'État les moyens les plus considérables. Je demande aux auditeurs de réfléchir sur les beautés de la TVA sociale, que la gauche de gouvernement prise autant que la droite de gouvernement. Ah, oui. Et donc, pourquoi est-ce que ce Parlement était gênant ? Parce qu'il y avait des élus, et que ces élus, qui devaient être élus tous les 4 ans, eh bien, étaient même de droite quelquefois. un peu trop sensibles aux nécessités de leur réélection, et il fallait finalement quand même des masses pour les réélire. Alors vous me direz, bon, les masses ça se gère, les élections ça se fait. Oui, mais quand même, sans élections c'est tellement mieux.
Bien.
Donc ce Parlement les gênait, parce que ces hommes constataient que un certain nombre de décisions qu'ils jugeaient opportunes pouvaient être mises en cause par ce Parlement un peu soucieux de sa réélection. Alors, sans parler évidemment du fait que, à partir des années 1920, à partir de 1924, bien qu'ils se fussent déjà réunis en 1922, eh bien, la France même, figurez-vous, avait voté à gauche. Bon, ça s'est pas vu longtemps. J'explique dans le choix de la défaite pourquoi ça s'est pas vu longtemps, précisément parce que le grand capital contrôlait une partie de cette gauche. Mais il faut le savoir. La France a voté à gauche en 1924, en 1928, en 1932, et ça s'est plus en 1936. Mmh. Et vous dire à quel point ces projets de gauche n'ont pas abouti est aussi vous dire à quel point le grand capital a été en mesure de contrôler les lendemains de ces non seulement d'ailleurs ces élections, mais les lendemains de ces élections. Donc finalement, les pays dans lesquels, comme l'Italie, on avait littéralement supprimé ou paralysé le Parlement, parce que je vous signale d'ailleurs que aucune dictature fasciste pratiquement n'a supprimé un Parlement. Elle l'a transformé en ectoplasme pur, mais elle ne l'a pas supprimé. Il y a théoriquement encore un Reichstag qui existe sous Hitler, bon, et une chambre sous Mussolini, etc. Donc liquider cette capacité de la population tout de même à apparaître sous les décisions de l'Assemblée. Je vais vous donner un exemple précis que je donne dans le choix de la défaite parce que je le trouve particulièrement éclairant. En 1931, la Banque de France fait comme tout le monde dans le capitalisme, et ça vous rappellera 2008 dont on est loin d'être sorti. C'est-à-dire que 1931, c'est le moment où la crise de 1929 devient une véritable crise systémique qui met en cause le maintien du fonctionnement du capitalisme. Tout simplement parce que elle prend une forme financière et monétaire, elle pose un problème de dette tel que le capitalisme manque d'être emporté. Je dis bien manque d'être emporté pour des raisons que je précise à ce moment-là. Et en particulier, le capitalisme britannique est très touché puisqu'il est très engagé en Allemagne, que la dette allemande est tout à fait gigantesque puisque le développement du capitalisme allemand s'est fait sur la base de l'emprunt à l'étranger massif depuis 1923-1924. Emprunt massif non seulement aux États-Unis, comme on le sait en général, enfin comme le savent, des bons élèves de terminale ou des bons étudiants de première et deuxième année, mais cet endettement concerne, et la créance, concerne d'autres pays capitalistes, l'Angleterre, la France, la Suisse, tous. Tout simplement parce que, comme je l'explique, dans le choix, la dette allemande est particulièrement rémunératrice. Ce qui fait, par exemple, que le capitalisme, la haute banque française, laisse le pays s'enliser dans les difficultés, la crise de la deuxième moitié des années 20, etc., parce que l'endettement allemand rapporte des taux d'intérêt bien plus intéressants. Je ne parle pas ici des réparations. On laisse tomber l'affaire des réparations sur laquelle on dit d'énormes bêtises que je corrige dans mes travaux, évidemment, sur une base documentaire sérieuse. Donc, la Banque d'Angleterre manque de se casser la figure parce que les banques anglaises sont engagées jusqu'au cou en Allemagne, et l'Allemagne est l'objet, après la faillite de la Nordwall, c'est-à-dire du plus grand trust de coton d'Allemagne, et après la faillite d'une des plus grandes banques allemandes, qui succède à la faillite de la plus grande banque autrichienne, eh bien, la Banque d'Angleterre est en situation de détresse totale, la livre s'écroule. Ah, mais quelques années auparavant, ce qu'on a appelé le mur d'argent, c'est-à-dire la grande banque française, la Banque de France en l'occurrence, qui regroupe toute une série de très grandes banques d'affaires et de dépôts, surtout d'affaires, mais enfin, il y a un peu de tout, et on peut considérer que la Banque de France représente en quelque sorte le conseil d'administration d'ensemble. La Banque de France a fait des grosses bêtises à la lumière de 1931, qui ont été longtemps des affaires avantageuses et qui ont cessé de l'être. C'est-à-dire qu'elle a joué le franc, elle a joué contre le franc en 1924-26. Elle a acheté de la livre en quantité considérable, et comme la livre s'écroule, eh bien, elle perd. Et elle demande à l'État, on y reviendra après, et elle demande à l'État, c'est-à-dire aux contribuables, de venir lui compenser les grosses bêtises qu'elle a faites en 1924. Ça vous rappelle que
ça continue.
Alors, j'en étais donc à 1931. Donc, quand la bise fut venue, la bestiole qui avait fait des bêtises s'en va requérir de l'aide du contribuable à l'État. Et le gouverneur de la Banque de France exige que des pertes privées soit compensé par un geste public, requérant évidemment un gros effort du contribuable, puisque la perte se monte à des sommes considérables. Puisque, je le répète, la Banque de France a joué le franc en 1924-26 et a acheté massivement de la livre qui se trouve terriblement dépréciée par la crise de 1931. Alors, elle obtient satisfaction dans les 15 jours. Mais 15 jours, c'est long quand même. Ce serait mieux tout de suite. Parce qu'on fait pression sur des hommes politiques bien compréhensifs, un premier ministre ou un ministre des Finances, comme Flandin, dont toute la carrière a été faite grâce à aux liens organiques contractés avec le patronat, mais c'est un peu gênant, bien entendu, puisque tout le monde n'ignore pas que la Banque de France s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture. Eh bien, ça se fait au bout de 15 jours, mais il est évident que si la Banque de France disposait de structures étatiques plus directes, elle n'aurait pas besoin de passer par les commissions des chambres, c'est-à-dire d'abord l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, pardon, et puis le Sénat. Alors vous me direz, mais le patronat contrôlait tout le Sénat, puisqu'il faisait pratiquement élire tous les sénateurs. C'est vrai. Et je signale pour mémoire que les dynasties de la sidérurgie avaient contrôlaient par exemple pratiquement tous les élus de Lorraine, hein, puisque le minerai de fer était en Lorraine, et que il faut savoir que des gens aussi prestigieux que Raymond Poincaré, puis Robert Schumann, les chéris de la famille Vindel, ont représenté dignement, pour Schumann durablement, les intérêts de la sidérurgie. C'est-à-dire que, vous me direz, les députés, ça se contrôle. Financer un député, le faire élire facilement parce qu'on lui fournit des grands moyens, ça permet de contrôler le Parlement, pas entièrement, parce qu'il y a des prolétaires en Lorraine qui, dans les années 1920, commençaient à trouver que finalement des députés rouges, des députés communistes, c'était utile aussi. Enfin bref, tout ça était un petit peu ennuyeux, et nous étions au début de la grande crise, de la crise dans sa phase systémique, c'est-à-dire du moment où la synarchie, dont je rappelle qu'elle représentait le cœur du grand capital, à fonction et à intérêts internationaux, industrie lourde et grandes banques, la synarchie commence à trouver que pour J'ai parlé du Parlement, pardon, je n'ai pas parlé de tous les moyens de défense. Les ouvriers, les salariés avaient aussi des syndicats. Il y en avait des pas combatifs, mais même les pas combatifs, on les aimait pas beaucoup, parce que finalement, si on n'avait pas du tout, c'était encore mieux. Alors vous me direz, la CGT des années 20 ou du début des années 1930, c'était une CGT largement contrôlée par le capital. C'est vrai, ça fait partie des choses que je dis et qui fâchent, mais enfin, ceux qui se fâchent devraient aller faire un long stage dans les archives policières. Je signale quand même à ceux qui se diraient, oh, quand même, les archives de basse police, en voilà, des instruments, eh bien, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de faire l'histoire des relations internationales avec autre chose que les archives diplomatiques, l'histoire militaire avec autre chose que les archives de la guerre? Je ne vais pas dérouler le bottin. Bien entendu, quand on travaille sur les questions politiques, il faut travailler sur les sources policières et administratives, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui informe son État de la situation précise, capitalistique, du contrôle des journaux, par exemple, du contrôle capitalistique des journaux au jour le jour, du contrôle des partis, du contrôle des syndicats. Eh bien, oui, c'est vrai, même si ça choque, y compris certains historiens de sciences sociales, mais enfin, il est vrai que d'histoire sociale, l'histoire sociale a pratiquement disparu sous la forme où on la connaissait jusque dans les années 60-70. Il est certain que Jouot n'avait rien pour inquiéter le capital, que on lui avait donné des prébendes de tous les côtés, il adorait ça. Il était brave, Jouot, c'était pas un méchant comme Belin. Mais c'était un faible et qui aimait bien les honneurs et qui aimait bien les prébendes. C'est bien pour ça que le patronat est en mesure de contrôler tellement de gens d'en bas. Ah, oui. Parce que le patronat a des moyens et on l'a vu. Je dois vous dire d'ailleurs que l'historienne que je suis et l'historienne à l'origine d'histoire sociale proprement dite, puisque ma thèse d'état a porté sur l'histoire de la CGT, enfin sur une période de l'histoire de la CGT, l'historienne sociale que je suis considère par exemple que la dramatique de Mordillat qui a été diffusée ces dernières semaines est une image non caricaturale, au contraire de ce qu'on pourrait penser, de ce qu'est la réalité sociale, c'est-à-dire de la capacité du patronat à prendre le contrôle de syndicalistes dont certains sont fort honnêtes et dévoués à l'origine, mais qui sont comme tous les ouvriers et les salariés qui rencontrent des fins de mois difficiles et à qui on fait miroiter le fait qu'on peut assurer une promotion certaine, que, ma foi, on peut arranger les fins de mois, que... Voilà, qu'il y a des moyens quand même de rendre les gens compréhensifs. Et puis tu as des dettes. Pourrait arranger les choses. Les voies de la corruption patronale sont infinies. C'est une des raisons pour lesquelles j'en ai discuté à un moment d'ailleurs avec mes étudiants ou avec mes enfants. Je me rappelle, quand je faisais encore de l'histoire sociale proprement dite à Toulouse, j'avais été très frappée par les mémoires d'un dirigeant de la métallurgie qui avait discuté avec mon excellent collègue Claude Villard, spécialiste de l'histoire du mouvement ouvrier, qui a fait une grande thèse sur les guédistes. Et à un moment, il interrogeait ce dirigeant syndical de la métallurgie qui lui racontait comment, en 1936, au moment de la discussion des conventions collectives, les militants unitaires avaient pour interdiction stricte d'entretenir le moindre rapport personnel avec le patronat. C'est-à-dire qu'on ne devait avoir avec le patron des rapports que strictement dans le cadre des conventions collectives. On ne pouvait pas accepter un repas de son patron, on ne pouvait pas prendre la voiture avec ses patrons hors du regard et du contrôle des mandants, c'est-à-dire des militants et des adhérents syndicalistes. Et j'en avais discuté, je me rappelle une fois avec mes enfants qui m'avaient dit, enfin quand même, maman, c'est quand même très excessif. Et j'avais dit, comment ça, très excessif? Vous avez face à face des gens qui ont du pouvoir et de l'argent, et des gens qui n'ont ni pouvoir ni argent, et qui, quelle que soit leur vertu à un moment donné, peuvent être sensibles à une attention, à une gentillesse, à quelque chose qui attire, et finalement aussi à de la corruption pure et simple. Donc c'était le moyen pour les unitaires d'avoir le contrôle total d'un personnel syndical qui devait être entièrement dévoué aux militants. Et ça explique d'ailleurs dans la CGT unitaire les règles extrêmement sévères de salaire qui ne devaient jamais dépasser celui de l'ouvrier qualifié de la métallurgie, parce que il était considéré qu'on ne pouvait bien défendre les salariés que en vivant dans un milieu qui était celui de la capacité de vivre certes correctement, de ne pas être un miséreux, mais de ne pas avoir des conditions qui éloignent le militant de la masse des syndiqués. Eh bien, dans le film de Mordillat, on voyait, et je puis jurer par le contrôle des archives et les années que j'ai passées dans les archives, je puis jurer que ce qu'on voit de corruption syndicale n'a rien d'excessif. Autrement dit, comme il existait un syndicalisme de lutte de classe, représenté particulièrement par les unitaires, et comme cette pression unitaire, si minime qu'elle soit, était une pression sur les syndicalistes compréhensifs, par exemple Jouhaud, qui était très compréhensif et à qui on avait donné le poste créé sur mesure par Herriot au moment du triomphe, enfin pardon, du succès électoral et donc du gouvernement de cartel des gauches de 1924. On lui avait donné un poste de président du Conseil économique qui était, on lui avait attribué poste après la guerre de délégué au Bureau international du travail, tout poste qui éloignait de fait Jouhaud de ses camarades ouvriers d'origine et qui faisait que Jouhaud disposait de conditions de vie, ma foi, qui l'amenaient à être raisonnable. Eh bien, il faut le savoir, ça. Et ça, on ne le sait que si on regarde les archives policières. Cette capacité de contrôle du patronat est considérable, mais finalement le patronat considère, surtout quand les masses sont en colère, qu'il n'y a rien de mieux que pas de syndicat du tout. Car pas de syndicat du tout, ça vous donne la situation de l'occupation. Ils n'ont jamais eu une situation aussi rêvée que dans les premières années de l'occupation. C'est-à-dire ce moment où, il faut le savoir, ils ont liquidé la Confédération Générale du Travail, ils ont liquidé officiellement les syndicats, mais ils ont laissé des prébendes à tous ceux qui avaient mal servi leur mandant et qui les avaient servis dans l'entre-deux-guerres. On ne le sait pas, parce que l'histoire ne le raconte pas, mais je puis vous assurer que les archives sont formelles. Et il se trouve que je travaille pour un nouveau livre ces temps-ci sur la base notamment des archives de haute cour, c'est-à-dire des archives des procès des ministres de Vichy. Et sachez que si les procès ont été une mascarade, l'instruction a été dans l'ensemble bien faite et que ce qu'on y découvre est à faire tomber les yeux des orbites. Notamment dans ce dossier, vous voyez, pour ceux qui n'aiment pas les archives policières, ils trouveront quelques indications là aussi. Donc, plus de syndicats, ça aurait été encore mieux. Parce que, ma foi, même Jouhaud, il était obligé de tenir un discours combatif. Regardez certains discours combatifs d'aujourd'hui par des syndicats, des représentants, des dirigeants syndicaux dont on sait qu'ils fréquentent quotidiennement le patronat. On le sait, parce que des rumeurs circulent. On peut même le savoir de façon directe. Bon, ça veut dire que, poussés par leur base, ils ne peuvent pas se couper entièrement de leur base. Ils ne peuvent tellement pas se couper entièrement de leur base que l'exemple allemand nous fournit, je dirais, une démonstration irréfutable. On avait un syndicalisme liée organiquement à la social-démocratie allemande, qui était d'une compréhension qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire qui a pratiquement tout laissé passer, qui a accepté, notamment, au nom de la politique dite du moindre mal, le régime à l'huile de ricin, pour ne pas dire davantage, administré par le chef du Zentrum, du parti catholique, Brüning, de 1930 à 1932, qui a fait de fait disparaître le système parlementaire allemand, qui était d'ailleurs très faiblard, mais qui l'a fait disparaître totalement, puisqu'il a fait fonctionner l'Allemagne pendant 2 ans, avant que les successeurs, les prédécesseurs d'Hitler et Hitler lui-même ne détruisent entièrement le système parlementaire. Il a fait fonctionner le système parlementaire allemand comme une véritable dictature. Je le signale d'ailleurs, de 1930 à 1932, le Reichstag a fonctionné comme la Chambre des députés française de 1938 à 1940. C'est l'objet de mon livre de Dominique Avichy qui montre, au contraire de ce qu'on nous raconte, qu'il n'y a pas de césure si absolue entre Vichy et la phase de dictature de Daladier puis de Reynaud que les républicains compréhensifs ont ménagé avant de laisser place à Vichy en ayant manifesté une complicité passive et active considérable au putsch qui allait aboutir sur base de défaites préparées au régime de Vichy de juillet 1940. Eh bien, je reviens à mon affaire. De 1930 à 1932, les syndicats allemands, le syndicalisme, on appelait le syndicalisme libre, pas comme chez nous, parce que chez nous, le syndicalisme libre, c'est officiellement le syndicalisme jaune. En Allemagne, ce qu'on appelait le syndicalisme libre, c'était le syndicalisme social-démocrate, qui avait résisté à l'offensive antisyndicale de Bismarck, dans les années 70, et c'est-à-dire le syndicalisme socialiste. Eh bien, ce syndicalisme social-démocrate avait accepté les pleins pouvoirs, avait accepté la baisse nominale des salaires de 5%, de 10%, de 15%, de 20%. Mais le problème s'opposait pour le patronat, avec un syndicalisme aussi compréhensif, que la base du syndicalisme disparut complètement, c'est-à-dire que les ouvriers en colère,
des ruptures.
Fils rupture avec ce syndicalisme trop compréhensif. Donc le meilleur moyen, c'était qu'il n'y eut plus de syndicalisme du tout. Ce qui a été en fait le cas de figure qui s'est réalisé en France. Autrement dit, même le syndicalisme le plus mou, le plus capitulaire, était encore de trop. Une chose a été, par exemple, en France, de conserver des prébendes aux syndicalistes capitulaires discrètement de 1940 à 1944, et une autre chose a été de conserver officiellement la structure syndicale qui, elle, a été supprimée. Donc, ces synarques, ils trouvaient que les syndicats, ça n'était pas bien. Les partis non plus. Oh ben, vous me direz, ils contrôlaient tout. Oui. Ils contrôlaient la droite. Ils contrôlaient l'extrême droite. Ils contrôlaient l'extrême droite qui, comme l'a montré mon collègue Robert Soucy, mon collègue américain, dont les thèses sont à peu près passées sous silence, mais enfin qui a réussi quand même à faire traduire ses bouquins sur le fascisme français. Mon collègue Soucy montre que dans les années 1920 et 1930, sous l'effet des nécessités, il y a eu une sorte d'osmose entre la droite dite républicaine et l'extrême droite. C'est-à-dire cette fascisation de la droite qui est parvenue à son stade ultime en 1939-1940, où les républicains, le discours de la droite républicaine comme on l'appelle aujourd'hui encore, et le discours de la droite fasciste ne se distinguaient plus en aucune façon. Et pour ceux qui ont des doutes sur le cheminement du héros de l'Europe, le saint Robert Schuman, je l'ai pris d'aller regarder dans Le choix de la défaite le ton de son association catholique de Lorraine contrôlée par les Vindel, Et le ton de ces sessions, de ces séances de 1935, 1936, 1938, et vous verrez que le discours sur les juifs, les francs-maçons, les rouges, les espagnols républicains, etc., ne se distinguait par aucun mot de vocabulaire du discours des ligues fascistes, à commencer par l'action française en déroulant toute la gamme considérable des ligues qui allaient se regrouper en cagoule dans la période 1935-1936. Donc, ils contrôlaient les partis. Les partis de droite extrême et dite républicaine entièrement. Et d'ailleurs, je vous donne un autre exemple allemand. Quand en 1932, le patronat allemand a retiré son financement de ses partis classiques de droite, c'est-à-dire du parti populiste et du parti national allemand, ils se sont effondrés. Car tous leurs moyens venaient du patronat. Ouais, patron. Alors vous me direz, mais la gauche Eh bien, vous seriez grand patron. Qu'est-ce que vous vous diriez ? Qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et que c'est pas un banquier qui peut contrôler directement un parti ouvrier, c'est-à-dire avoir de l'influence sur les masses. Parce que vous mettez aujourd'hui un monsieur à la tête des compagnies d'assurance à la tête d'un parti ouvrier, ça ne se peut pas. En revanche, vous pouvez mettre à la tête de partis ouvriers des gens dont les ouvriers pensent qu'ils sont dans leur camp, mais qui ne sont plus dans leur camp. Je ne dirais pas qu'ils n'ont jamais été dans leur camp. Je dirais qu'ils ne sont plus. L'avantage, c'est que les salariés ne savent pas qu'ils ne sont pas dans leur camp. Alors évidemment, là aussi, je fais un peu hurler, mais il y a un personnage symbolique. Alors ce personnage symbolique est vraiment extrêmement symbolique de la gauche de gouvernement. Et l'objet d'un culte périodiquement le Parti Socialiste lui rend, je pense à Léon Blum. Mm. Léon Blum, il y a beaucoup de chercheurs, il y a une biographie sur lui qui reproche aux communistes, par exemple, d'avoir été très dur avec lui, voire même d'avoir été antisémite. Bon, ça, je dois dire d'abord que c'est faux. C'est vrai que les communistes ont été très durs avec lui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que lui, il a été très dur, en fait. Non seulement avec les communistes, mais finalement avec la classe ouvrière. Et que sa réputation d'homme de gauche est une réputation qui est essentiellement due à quelque chose qui est intervenu contre lui, c'est-à-dire le mouvement des ouvriers de 1936, car Léon Blum investit, il faut bien le dire d'ailleurs, sous la pression directe des patrons ou renforcée à un moment même par la pression directe des patrons, parce que on ne sait pas exactement. Les patrons ne l'ont pas dit après comment les choses se sont passées. Léon Blum avait fait comme tout le monde quand il avait été porté par le premier parti de gauche en baisse d'ailleurs parce que il avait baissé ses voix par rapport au parti communiste mais qui lui avait considérablement augmenté, restait le premier parti de gauche et Léon Blum était un des hommes au sein du Parti Socialiste qui disons représentait les courants très favorables au capitalisme. C'est d'ailleurs ce qui, il faut bien le dire, l'avait empêché en 1920 d'adhérer à la défense d'une révolution. Parce que on ne pourra pas me dire que c'est à cause de Staline en 1917 ou 1920 que Léon Blum avait choisi de maintenir la vieille maison. Il avait choisi de maintenir la vieille maison parce que ceux qui avaient choisi de maintenir la vieille maison était hostile au principe de toute révolution ouvrière et de la propriété publique des moyens de production et d'échange. C'était un homme qui appartenait au Conseil d'État, qui était extrêmement lié avec les milieux de l'inspection des finances, c'est-à-dire qui vivait dans un milieu qui ne lui faisait rencontrer et finalement apprécier que des privilégiés, qui trouvait finalement que le capitalisme, bien sûr, on pouvait l'amender légèrement, mais qu'il ne fallait surtout pas le toucher, et qui n'a dû sa réputation d'homme de gauche qu'au fait que les ouvriers se sont mis très en colère et ont littéralement submergé la France par leur mécontentement, incitant le grand patronat à supplier, vous m'entendez bien, à supplier Léon Blum de réunir une conférence pour arrêter la marée et essayer de limiter le mouvement qui avait démarré en mai 1936, je le signale, pour résister d'abord en province à des lockouts. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas, le mouvement de 1936 a commencé dans une période où la classe ouvrière ne pouvait plus supporter non seulement son appauvrissement, non seulement la pression terrible et chaque jour aggravée, mais à répliquer à une mesure de répression patronale qui s'est transformée donc en mouvement très ample, puisque la marée humaine a fini par balayer la tentative de répression du patronat qui, après une participation d'ouvriers à des manifestations interdites du 1er mai, avait trouvé bon de fermer les usines. Et donc Léon Blum avait fait, comme tout le monde, c'est-à-dire était venu avec son ministre des Affaires, son ministre des Finances, Vincent Auriol, qui avait naguère appartenu à la branche de gauche du PS, mais qui a cessé d'appartenir à la branche de gauche du PS de la SFIO, elle s'appelait comme ça, Section française de l'Internationale ouvrière, en devenant ministre. Il était venu devant le gouvernement de la Banque de France, centre de pouvoir ultime de la Banque de France, plus important d'ailleurs que le Conseil général, dont moi j'ai vu les archives, j'ai pas vu les archives du gouvernement de la Banque de France, je n'ai vu en quelque sorte que des archives un peu adoucies, mais enfin elles sont déjà très dures. Hein. Et donc il avait promis, comme tous ses prédécesseurs, élus sur des programmes de gauche qui promettaient beaucoup à la population, qui promettaient à la population d'alléger ses peines, il avait promis beaucoup, mais il avait surtout promis à la Banque de France qu'il mènerait une politique raisonnable et d'austérité. Et il faut savoir d'ailleurs que la politique de dévaluation qu'on a imputée à Paul Reynaud comme un signe de son indépendance d'esprit est une politique qui a été voulue par le grand capital dès le début des années 30 sur une base que j'explique dans le choix de la défaite, c'est-à-dire que le gouverneur de la Banque de France a fait l'analyse en 1931 que finalement à un moment donné, enfin dans les années qui ont suivi la crise de 1931, à un moment donné il devenait plus raisonnable de chercher à casser les salaires par la dévaluation puisque ça permettrait de limiter ou d'annuler toute hausse des salaires. Et la Banque de France est passée d'une opposition ferme aux dévaluations à une faveur à l'égard des dévaluations qui permettrait d'accentuer la casse des salaires. Et c'est sur cette base, il faut le savoir, que la gauche de gouvernement a prôné la dévaluation, non pas contre le patronat, mais avec le soutien, soutenant de fait une fraction très puissante du patronat qui trouvait que finalement, si on ne pouvait plus, comme l'avait montré l'échec de Brüning, si on ne pouvait plus mener la baisse directe nominale des salaires, eh bien, on casserait les salaires par la dévaluation qui, évidemment, augmentant considérablement le prix des matières importées dans un pays aussi importateur que l'Allemagne d'une part, que la France d'autre part, permettrait de faire disparaître les effets de toute hausse de salaire. Et c'est donc Blum qui, d'une part, a subi la marée ouvrière. Il faut le savoir, 1936, ce n'est pas du tout le triomphe d'un front populaire gouvernemental compréhensif aux ouvriers, c'est le résultat de la mobilisation ouvrière, de l'action des militants ouvriers combatifs. J'ai le regret de devoir dire, puisqu'il faut préciser que c'était les militants unitaires, c'est-à-dire, grosso modo, qui se confondaient avec le PCF, c'est comme ça, je n'y peux rien, et que c'est dans ces conditions que les ouvriers ont remporté en France, en 15 jours de grève, une victoire qui a servi de premier substrat à ce qu'on appelle pompeusement le contrat social d'aujourd'hui, qui a été cassé en 1938 et de plus en plus liquidé, il a été déjà bien cassé en 1938, comme je l'explique dans Dominique à Vichy, liquidé, dirons-nous, de la fin 1938 à 1944, et grâce la remobilisation et au caractère actif de la résistance, et il faut le dire, à l'augmentation considérable de la part des unitaires dans le syndicalisme ouvrier, qui a permis en 1944-1945 de recréer les bases de ce qui aujourd'hui est mis en œuvre et mis en liquidation de manière aussi drastique. Il faut donc bien savoir que la synarchie avait, avec la complicité d'une partie très importante des organisations, des dirigeants des organisations dites ouvrières, avait le projet de liquider toutes les institutions de défense de la classe ouvrière et des salariés. Je dirais que le pouvoir de la synarchie n'est forcément pas plus mince qu'il était, parce qu'il paraît qu'il n'existe pas, mais je constate avec satisfaction intellectuelle, pour ne pas parler du reste, que les fils et petits-fils sont toujours là et qu'ils occupent des fonctions toujours aussi éminentes.
Et d'ailleurs, leur silence est absolument criant, je trouve, actuellement.
Alors, à ceux qui se désespèrent, je voudrais simplement rappeler que, d'abord, il faut avoir le courage de voir les choses en face. Voir les choses en face, c'est voir ce qu'est la structure du pouvoir d'État dans un État reposant sur des divisions de classe profondes et sur la division fondamentale entre ceux qui possèdent les moyens de produire et d'échanger, en gros, et les autres, qui ne possèdent rien. Avec les nuances, évidemment, d'une société qui trompe aussi par sa complexité, enfin qui trompe par sa complexité parce qu'on empêche les gens de prendre conscience des choses simples sous l'apparence complexe. Je vais poser une question toute bête qui fait forcément réfléchir ceux qui pensent que vraiment tout est désespéré. Qui peut penser qu'en 1789, une population paysanne absolument accablée par la réaction seigneuriale lancée depuis les années 1770, par la misère, accablée par la crise frumentaire, la crise d'approvisionnement en céréales, par une crise qu'on appelait une crise de soudure, c'est-à-dire le moment où on passe de la vieille récolte à l'attente de la récolte nouvelle, en situation, enfin en économie d'ancien régime, qui peut penser que la paysannerie, accablée par la misère, accablée par le lavage de cerveau que lui administre au minimum une fois par semaine le curé, qui au fond est la principale représentation idéologique de ce qui aujourd'hui est assuré, il faut le dire, par la télévision, par tel ou tel moyen d'information, mais enfin la télévision, c'est sans doute ce qu'on pourrait le plus comparer au curé, qui n'était que les représentants modestes et même un peu pauvres servis à ce qu'on appelait la portion congrue, qui portion congrue, ça veut dire portion qui convient et qui avait été tellement réduite qu'elle ne convenait plus. Ces pauvres curés, donc, qui disaient aux paysans que ça serait toujours comme ça, que de toute façon ça n'avait pas d'importance, alors en plus là c'était commode, puisque dans un monde meilleur, au-delà de la mort, finalement, on aurait toutes les satisfactions qu'on avait pas eu dans la vie séculière. Eh bien, pourquoi ils se sont fâchés? Parce qu'ils étaient révolutionnaires? Non. Ils n'étaient pas révolutionnaires, ils croyaient à peu près tout ce qu'on leur disait, ils n'en pouvaient plus. Et je dirais que leur révolte a permis à une classe qui ne prônait pas en fait l'égalité de venir au pouvoir, une classe qui a dû consentir des concessions, parce que je rappelle que l'abolition des droits féodaux sans indemnité de 1793, ça n'est pas une revendication de la bourgeoisie qui avait fait un 4 août très mignon en 1789 où on faisait semblant d'avoir aboli la féodalité, mais la féodalité était rachetable. Tandis que les paysans se sont mis tellement en colère pendant 4 ans qu'ils ont obtenu de récupérer la terre qui était obérée par les droits féodaux sans rembourser quoi que ce soit, sans payer quoi que ce soit. Ils ont obtenu un premier résultat, mais ils se sont fait diriger par des classes nouvelles qui d'ailleurs ont fait disparaître la paysannerie pratiquement en tant que classe, hein, puisque cette classe nouvelle capitaliste, elle avait besoin des paysans pour venir travailler dans ses futures usines. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que à un moment donné des crises, et ça c'est un élément évidemment qu'il faut beaucoup analyser, la société telle qu'elle est ne peut plus fonctionner comme elle fonctionnait. La crise de la féodalité, elle a duré pratiquement 300 ans. À un moment donné, elle est devenue tellement intolérable que, balayant l'idéologie, eh bien, les classes dominées les plus massives, c'est-à-dire la paysannerie, sont entrées en révolte. Ça, c'est le cas français. Ça a amené ce qu'on appelle une révolution. Et qu'est-ce que c'est qu'une révolution ? C'est un changement de pouvoir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de prôner une vision comparative. Est-ce que, quand les classes dirigeantes dirigent tout, des élections sont en mesure de leur faire lâcher prise ? Moi, je demande à l'auditeur de faire une seule chose, c'est-à-dire de se renseigner sur ce qui s'est fait jusqu'ici. En 1936, il y a eu un mouvement de gauche massif. Pas si massif que ça, quand on y regarde bien, hein, parce que c'était pas non plus un raz-de-marée. Mais qui est devenu un raz-de-marée, puisque des ouvriers, dont certains n'y avaient sans doute pas pensé avant mai 1936, je sais pas si vous voyez les employés de banque en 1936, ou les vendeuses des galeries Lafayette en 1936, elle ne savait pas 15 jours avant qu'elle se mettrait en grève. Hein. Bon. Ça a représenté des grèves très massives. Ces grèves très massives ont obtenu des petites concessions. Comme le patronat conservait tous les moyens de contrôle, et notamment le contrôle de l'État, de la totalité de l'appareil d'État, le contrôle des partis, le contrôle de la presse, finalement, contrôle de tout.
De tout.
En 15 jours, il avait réussi, finalement, à se dire que tout irait bien. D'ailleurs, l'ambassadeur du Reich, von Weizsäcker, la véritable coqueluche des milieux dirigeants français, y compris jusque dans la gauche socialiste, hein, faisait observer que, je ne dirais pas la fraction de gauche socialiste, je dirais la SFI, ou non. Qui aimait bien la paix, en plus, à l'époque. Bon, c'était embêtant parce que l'Allemagne voulait faire la guerre, mais enfin bon. L'ambassadeur von Weizsäcker faisait l'observation courant juillet que l'affaire était bouclée. C'est-à-dire que le patronat récupérerait à peu près tout ce qu'il pouvait. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas la peine de se lamenter. Il y a une chose qui est de s'apercevoir que si les mêmes restent aux affaires, rien ne changera. Et une autre chose qui est de s'apercevoir que le seul moyen que ça change, c'est que ceux d'en bas décident, ma foi, de prendre le contrôle des choses. Eh bien, ce sont des choses qui ne se règlent pas en pleurant. Ce sont des choses qui se règlent, il faut bien le dire, qui se sont réglées, car ça mériterait plus qu'une émission. Comment est-ce qu'on empêche ceux d'en bas de faire en sorte de ne pas de supporter une situation insupportable? Écoutez, moi je vais faire une remarque toute bête. Comment peut-on faire que fonctionne une société dans laquelle certains gagnent en une heure ce que d'autres ne gagneront jamais dans une vie? Je veux dire, vous vous dites ça, vous vous dites, c'est tellement insupportable que naturellement ça ne saurait pas être supporté. Et bien pourtant, c'est supporté, des générations durant. Vous avez, moi j'étais cette semaine, prenant le métro comme tout le monde, sur mon quai du RER, avec des gens qui grognaient contre les grévistes. Ouais, il y en a marre, et puis à 65 ans, regardez, moi, j'ai travaillé jusqu'à 65 ans, et moi, voyez, j'ai l'air de faire 65 ans, et ça déblatérait. Et j'ai dit, mais ça vous pose pas de problème de payer pour les banques, par exemple? Qu'est-ce qui fait que des gens qui vont travailler tous les jours, qui reviennent crevés, qui se disent, qui le dit, je l'ai entendu dans le métro cette semaine, j'ai entendu quelqu'un, on était serrés comme des sardines, le métro fonctionnait, j'ai entendu quelqu'un dire, oh non, ça jusqu'à 62 ans, ça non, je peux pas. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ça tient? Ce que on met dans la tête des gens, c'est-à-dire, c'est comme ça,
on peut pas faire
c'est
autrement.
Pas autrement, c'est inévitable.
La peur.
Et deuxièmement,
et la trouille.
Et deuxièmement,
peur.
La peur, mais ça pose la question du contrôle de l'appareil d'État. Hein? La peur sera toujours du côté de ceux d'en bas, puisqu'ils ne détiennent pas l'appareil d'État qui donne le contrôle de la force sur les citoyens. Deuxième élément qui contribue à la résignation. Eh bien, bien sûr, c'est atroce, mais si on change, ce sera encore plus atroce. Et là intervient, je disais que ça mériterait plusieurs émissions, le fait que finalement, les révolutions ont fait l'objet d'un descriptif tellement abominable, soit par le descriptif de la révolution, du processus de la révolution lui-même, soit par le descriptif de la société que ces révolutions ont engendré, que, à un moment donné, cet élément devient presque l'élément crucial du blocage idéologique. Qu'est-ce qui aujourd'hui retient la population de se débarrasser d'une situation intolérable? C'est cette idée qu'étant dans un enfer, elle va, si elle se débarrasse de cet enfer, tomber dans un enfer encore plus abominable. Alors ça amène à faire l'analyse que sur le plan idéologique, un des aspects, sinon l'aspect le plus important, je dirais depuis 1917, a été de montrer qu'une révolution était abominable, mortifère, et ne pouvait aboutir qu'à une situation bien pire. Et je dois le dire, ça fait aussi partie des choses qui me donnent une mauvaise réputation, une réputation de pétroleuse ou une réputation de abominable, vous pensez, de soviétophile, c'est que je sais, pour avoir travaillé 40 ans dans les archives, que ce qu'on nous a raconté de 1917 et au-delà ne correspond pas à ce qu'un chercheur actif trouve dans les archives. Autrement dit, que, et il faut le savoir, il n'y a rien de plus fort que de mettre les victimes dans une dénonciation permanente de ceux qui ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de victimes. Et ça amène à dire que le tapage que nous avons connu ces dernières décennies, alors que c'est un tapage, je répète, qui date de 1917 et qui ne date pas de Staline, hein, ce tapage est un tapage qui s'est beaucoup renforcé, qui a groupé de manière absolument complète et sans aucune division ceux de l'extrême haut et des milieux qui vont parfois jusqu'à la gauche et même très à gauche, est quelque chose sur quoi les victimes de la situation devraient réfléchir. Comment est-il possible de se mettre entièrement d'accord sur une société qui finalement a quand même aboli la propriété privée des moyens de production et d'échange? Autrement dit, de s'interroger sur ce qui fait que un aspect idéologique majeur de la tenue tranquille des gens est leur ignorance sur le fonctionnement de la société et sur le fonctionnement des sociétés qui changent le sort des gens. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je ne vais pas parler de l'URSS, en plus on n'a pas le temps. Je vais vous donner un exemple tout simple, tout bête. Il se trouve qu'en n'étant pas spécialiste de l'Amérique latine, j'ai quand même vaguement trouvé des choses sur l'Amérique latine, parce que je travaille tellement dans les archives, et puis quand même je lis tellement d'auteurs américains qui travaillent beaucoup sur les archives, que j'ai forcément rencontré l'Amérique latine. Et puis je travaille beaucoup sur les États-Unis aussi. Et je me suis aperçu que entre ce qu'on nous diffuse sur Cuba et ce que je peux constater dans les sources, moi, en lisant les archives publiées américaines, en lisant mon collègue Thomas Patterson, qui nous raconte par exemple dans un ouvrage sur la politique extérieure de John Kennedy, comment les États-Unis ont géré la question cubaine depuis le début des années 60, c'est-à-dire en envoyant des tueurs, en détruisant les récoltes, en empoisonnant ceci ou cela, en faisant du terrorisme d'État, en faisant sauter des avions. Mais c'est les archives de la CIA qui le montrent, une partie est déclassifiée. Et en continuant à faire que des organismes de très haut prestige accordent, enfin, ou de très haut prestige proclamés, accordent régulièrement des récompenses à de présumées victimes éventuellement paralytiques, qui semblent d'ailleurs bénéficier tout de même de l'usage de leurs membres quand on les sort de prison. Par exemple, une Union européenne qui vient pour la deuxième fois de nous trouver un dissident malheureux, etc. Alors même que, je suis formelle, les archives attestent que ces fameux dissidents sont dans des relations de tarification précises et régulières à l'égard de, enfin de gratification précise et régulière envers les services de renseignement américains, tout ceci donne à penser que, au lieu de se lamenter, il serait bon de voir, de comprendre que la guerre sociale est une guerre impitoyable et que le malheur veut, mais c'est comme ça, c'est la loi des sociétés de classe, que d'un côté les puissants maîtrisent tout et que de l'autre côté ils font en sorte pour que les non-puissants soient dans l'incapacité totale de comprendre comment la société fonctionne, comment ceux d'en haut gèrent tout et comment finalement ils ne peuvent se débarrasser d'une situation insupportable qu'en prenant une autonomie totale par rapport à ce qu'on leur diffuse tous les jours et en se rendant compte que on ne peut pas changer les choses si on ne prend pas le pouvoir d'État. Et je dirais qu'on revient dans une radio comme la vôtre, c'est tout de même un domaine familier, on revient à la question de savoir dans le débat entre Proudhon et Marx, ce n'est pas Marx qui a raison. C'est-à-dire que proposer de casser un pouvoir d'État que contrôle la grande bourgeoisie jusque dans le détail, qu'est-ce que c'est que la violence policière? La violence policière, c'est la capacité d'un État, mode d'expression et de représentation directe des classes dirigeantes les plus concentrées en capitale, c'est la capacité donc de cet État de contrôler une masse de salariés qui sont en mesure d'exercer une violence physique extrême sur d'autres salariés, parce que ces salariés éventuellement leur accordent quelques petits avantages. D'abord, ils ne sont pas chômeurs au lieu d'être chômeurs, etc. Et qui peut croire sérieusement qu'aujourd'hui, la question de l'appareil d'État ne se pose pas. Et qui peut penser sérieusement que il suffira de mettre...
Même Marx était pour la dissolution de l'État, je fais remarquer.
Oui, mais Marx était bien sûr pour la dissolution de l'État. Il est à terme pour la dissolution de l'État. Mais la question de la dissolution de l'État, elle se pose dans la mesure où les classes sociales ne sont plus amenées à exercer de violence les unes sur les autres. Et la question du pouvoir d'État, elle est une question de la capacité d'exercice de la violence tant qu'existent des classes opposées. Je fais une
L'État
remarque.
Entraîne la violence aussi, c'est
Je
ça le
fais.
Problème.
Le problème est que la violence est exercée d'abord et prioritairement et exclusivement par ceux qui détiennent cet appareil d'État. Je fais une remarque. Lorsque les bolcheviks prennent fort intelligemment et en profitant d'une conjoncture délicate, personne n'a fait la révolution autrement, le palais d'hiver. Lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils sont dans une situation de désarroi des classes dirigeantes telle que pas une goutte de sang n'est versée. Qu'est-ce qui fait que cette révolution devient sanglante ? Le fait que les classes dirigeantes, qui se retournent toujours très vite, sont en mesure non seulement de récupérer un peu d'assises, mais, et c'est la caractéristique de toutes les révolutions, y compris depuis l'époque de la Révolution française, dans la mesure où ces classes dirigeantes, momentanément vaincues, et bien vaincues, car elles ne peuvent pas se débrouiller toutes seules, se retournent vers les classes dirigeantes des pays étrangers et sont en mesure de faire appel à la violence des classes dirigeantes étrangères qui génèrent une armée blanche qui ravage le pays. Car il faut se rappeler que ce qu'on appelle la guerre civile en Russie, de même d'ailleurs que la guerre civile en Espagne, n'est en aucune manière une guerre civile interne que les classes dirigeantes n'ont pas les moyens de mener à bien. Elle est une guerre civile, vous savez, comme en chaud temps, complice des putschistes de 1940, dirigeants radicaux et complice active des putschistes, appelait la guerre d'Espagne une guerre civile étrangère. C'est-à-dire une guerre que les classes dirigeantes espagnoles n'ont pu conduire que parce qu'ils ont bénéficié de l'ensemble du soutien des classes dirigeantes des pays impérialistes, voisins et non voisins.
Le Chili aussi.
Voilà. Chili, pareil. Alors, au lieu de pleurer sur la violence, il vaudrait mieux se rendre compte que la violence a été, tant que ceux d'en bas pleurent et jouent les victimes, a été exercée de manière exclusive par ceux qui ne pleurent pas, et qui sont en mesure d'utiliser la violence de leur appareil d'État, comme vous le disiez, ils ont pu l'exercer au Chili et dans combien de pays. Je signale au lecteur, parce que des ouvrages ont heureusement été traduits, que les travaux du politiste américain William Bloom sur le rôle de la CIA ont été traduits et que je présume que, même informés, ils auront tendance à tomber de leur chaise en voyant comment un impérialisme puissant a été en mesure d'écraser à peu près tout ce qui bougeait. Il faut pleurer, que nenni. Il ne faut pas pleurer parce que, et c'est ce qu'on ne mesure pas, parce que depuis des décennies on nous a empêchés de le mesurer, notamment en nous empêchant d'accéder à la connaissance historique. Les crises mondiales du capital sont des moments où le capital est beaucoup plus faible qu'il ne donne à le penser. C'est-à-dire que toutes les mutations profondes ne se sont faites que dans les périodes de crise. Et les périodes de crise ouvrent justement ces craquements que ceux d'en bas croient impossibles. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, et qu'un appareil d'État veuille le faire taire par la force ou non, nous sommes dans une période historique, de même type que la période qui a abouti à la Première Guerre mondiale, qui a débouché sur la première expérience de liquidation de la propriété privée des moyens de production et d'échange. Nous sommes dans une période qui, comme la deuxième grande crise systémique du capitalisme, a ouvert sur des fractures importantes en 1945, et nous sommes, et ça requiert évidemment explication complémentaire, nous sommes dans une crise qui est plus grave que les deux crises précédentes, parce que la surproduction du capital est infiniment supérieure à celle des deux crises précédentes. Je dirais donc, dans ces conditions, et je le dis sur la base de mon métier d'historienne, c'est-à-dire d'analyste du temps passé, nous sommes dans une période où non seulement il ne convient pas de pleurer, mais il convient de réfléchir sur les capacités qu'ouvrent aux victimes, à ceux d'en bas, la situation d'extrême contrainte exercée par ceux d'en haut. C'est-à-dire qu'on est dans une période historique qui va ouvrir forcément sur des révolutions. C'est impossible autrement. Et le meilleur moyen de s'en sortir, parce que ces systèmes d'inégalité des classes sont des systèmes féroces, qui tuent les gens, qui font en sorte que des bébés ne puissent pas manger, qui sont un système de violence permanent. Je reviens à notre émission de l'autre jour. Quand des ouvriers disaient « Mais vous vous rendez compte de la violence quotidienne qui est exercée sur nous ?»
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette focalisation sur la violence de la prise du pouvoir de tels ou tels révolutionnaires dans une période passée, quand on pense à la violence qui est exercée quotidiennement sur des gens qui mendient dans les rues, sur des gens qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants, sur des populations qui meurent comme des mouches, sur les millions de réfugiés des guerres provoquées par les impérialismes. Enfin, commençons par nous calmer, par nous renseigner sur le passé, et plus nous serons calmes, plus nous renseignerons sur le passé, mieux nous comprendrons les enjeux des luttes d'aujourd'hui, et plus nous serons en mesure de comprendre que cette crise ouvre la question de la liquidation des inégalités sociales, bref, de la liquidation des sociétés de classe.
Bah, très bien. Bah, merci Annie. Alors,
merci Annie aussi.
On espère que
même si on n'est pas toujours d'accord sur le fond,
je reviendrai volontiers.
Voilà, peut-être que même, enfin, on verra si même un petit créneau spécial, maintenant que tu es à la retraite, tu as du temps disponible.
Bah, oui, écoute,
tu pourras nous l'accorder.
Il est fort utilisé par la recherche et par les conférences. Eh bien, ça peut faire partie. Ça sera avec grand plaisir, évidemment, de ce créneau-là.
D'accord.